L'Incorrect, le mensuel qui ne lâche rien, présente
Sud Radio, les Incorrectibles. Éric Morillo.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Si vous en avez assez du politiquement correct, vous le savez, vous avez fait le bon choix. Écoutez Sud Radio chaque dimanche à 13h. Alors comme chaque semaine, avant d'accueillir notre invité, je vous présente les journalistes qui vont m'accompagner pendant toute cette émission. Ce dimanche, c'est Paul Lobachier de l'Obs et Arthur de Vatrican de l'Incorrect. Messieurs, bonjour.
Bonjour Éric.
Merci à tous les deux d'avoir répondu présent. Nous sommes ensemble pour une heure, également en simultané vidéo sur les réseaux sociaux. C'est donc parti pour les Incorrectibles.
Sud Radio, les Incorrectibles.
Alors, notre invitée cette semaine est enseignante et femme politique, députée La République En Marche de la 2e circonscription de l'Oise et directrice d'école en disponibilité. Très investie au sein de l'éducation nationale, elle siège à la commission éducation et culture et est également membre du conseil supérieur des programmes. En 2000, elle a publié L'école en portrait. Catholique pratiquante, elle est vice-présidente du groupe d'études République et Religion et n'a pas peur, c'est le moins qu'on puisse dire, d'affirmer haut et fort ses idées, notamment sur Twitter, quitte parfois à ne pas plaire même à son propre parti. Nous évoquerons aujourd'hui, bien sûr, avec elle, son actualité, mais aussi l'actualité en général. On va parler de ses convictions, ainsi, bien sûr, donc, de la plus récente actualité. Agnès Thil, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci, à vous.
Alors, avant d'évoquer avec vous, donc, je le disais, l'actualité et vos prises de position qui font donc débat, on va compléter un peu votre portrait afin de mieux vous connaître. Vous êtes la dernière enfant d'une famille ouvrière engagée et avez grandi dans le 9-3, comme on dit. Vous avez commencé à travailler tôt, dès l'âge de 18 ans, vos parents âgés étant déjà retraités. Vous dites que vos combats sont avant tout la laïcité, la valeur du travail et le respect de l'autre. Alors, première question, j'aimerais vous demander qu'est-ce qui vous a poussé à entrer dans l'arène politique, vous qui, comme on peut le lire sur votre site officiel, avez été élu alors même que vous sortiez de nulle part, parfaitement inconnu du bataillon de la politique.
Parce qu'en 2016, très clairement, et les présidentielles se présentaient à l'horizon 2017 et je ne voyais vraiment pas pour qui j'allais voter en tant que président. Nous étions alors en 2016, et je me suis dit, je ne vais pas voter pour Hollande, je ne vais pas voter pour Sarkozy.
Et pas pour Fillon.
Voilà, oui, mais à l'époque, il n'était pas, il n'y avait pas eu de primaire, il n'y avait pas eu, il y avait rien eu de tout ça, donc c'était Hollande ou Sarkozy. Et là, je me suis trouvée devant un vide sidéral. Et donc, je me suis penchée sur Emmanuel Macron en me disant qu'il n'était pas non plus...
Alors justement, donc on le disait, vous étiez même auparavant membre du Parti Socialiste. Vous avez rejoint...
Oh là, autant jadis.
Ouais, autant jadis. Vous avez rejoint La République En Marche, donc vous le disiez en 2016. Vous avez changé de camp, c'est ça, pour suivre Emmanuel Macron parce que vous étiez...
En 2016, j'ai commencé à le suivre. Je ne voulais pas adhérer par défaut. Donc je voulais être sûre que...
C'est tombé sous le charme.
Je voulais être sûre d'être en accord avec ce qu'il disait. Mais effectivement, il ouvrait et le problème, c'est que le pays n'allait pas bien. Là, on est en train de, on fait comme si on découvrait qu'il allait pas bien. Et on découvre rien du tout. C'est pour ça qu'on est là. Emmanuel Macron ne serait sûrement pas président de la République s'il n'y avait pas eu, si le pays allait bien. Et nous sommes issus de ce malaise. Donc voilà.
Alors Agnès Thil, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes opposée à la PMA, la procréation médicalement assistée pour toutes, qui était pourtant une promesse d'Emmanuel Macron lors de sa campagne électorale, si je ne me trompe. Et vos propos pour le moins radicaux ont entraîné très vives réactions, notamment au sein de votre parti, puisque même certains élus de La République En Marche ont demandé votre exclusion. Alors on va quand même rappeler ces propos qui ont suscité l'indignation pour les auditeurs, voire la colère. C'était un tweet notamment de novembre 2018. Je vous cite, il y a un puissant lobby LGBT à l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale n'est pas la France. Ici, les avis sont tout autres. Vous confirmez ces propos? On parlait de quel lobby exactement? Vous vouliez pas y revenir, je crois.
Alors, effectivement, mais j'ai été jugée, on va dire. Je suis passée en commission des conflits le 19 février pour ça. Et après, une fois qu'on a été jugée et qu'on est sorti, on ne va pas m'en parler indéfiniment. Donc, je considère qu'il est désormais inutile d'en parler. Par contre, pour nos auditeurs, c'est important d'expliquer...
Mais vous les regrettez, ces propos ou pas?
Ah, je les ai regrettés d'ailleurs. Je les ai regrettés deux jours après. Voilà, donc après, on ne peut pas parler indéfiniment de la même chose. Je ne sais pas si tout le monde est très clair sur la PMA. La PMA, elle existe depuis des décennies. Elle existe pour les couples hétérosexuels qui n'arrivent pas, pour des raisons X, dysfonctionnement et stérilité reconnue, à procréer. Et donc, elle existe depuis des décennies. Et là, je ne suis pas opposée du tout. Je suis pour la PMA. Je m'oppose effectivement à la PMA pour toutes, c'est-à-dire pour les femmes seules et pour les femmes lesbiennes. Vous disiez que c'était une promesse de campagne. Alors là, nous ne sommes pas d'accord. Je ne sais pas si j'ai eu le temps de m'exprimer là-dessus.
Allez-y.
Donc, c'était pas une promesse de campagne. Emmanuel Macron s'était affiché favorablement sur BFM là-dessus. Il avait dit, je cite, « Je suis favorable à la PMA pour toutes à condition d'un large consensus ». Mais les médias sont ce qu'ils sont, ils ont retiré le large consensus, ils ont retiré le personnellement et le jeu est devenu « on » sur le site. Donc ça pose un problème parce que, c'est dommage, j'ignorais que vous me poseriez cette question, mais j'ai dans mon sac à main, pas loin d'ici, le petit livret qu'on distribuait aux citoyens. Et ce n'est pas dans ce livret, je peux vous le montrer à la fin de l'émission, ce n'est pas. Ça s'est construit, La République En Marche ne s'est pas construit autour de ce projet. C'était pas ce qui a fait ce projet. Voilà, donc ça c'est quand même important de le dire parce que je me souviens quand ça a été mis sur le site, je m'y étais opposée en disant comment, mais on prend position sur rien, sauf sur ça. En même temps, et c'est quand même notre principe en même temps, imaginons même que j'aille dans votre direction et que ce soit une promesse de campagne. Allons-y, c'est moi qui fais un pas vers vous. Est-ce qu'on donne un enfant parce qu'on l'a promis? C'est une question.
Arthur de Vatrigan, l'incorrect.
Vous dites que, je me trompe, mais je ne crois pas que vous étiez favorable au mariage pour tous et à l'adoption, donc à la loi de Taubira, mais donc, comme vous l'expliquiez, vous êtes contre la PMA. Mais ne pensez-vous pas que tout est lié dans le sens où la loi de Taubira a ouvert la notion de fonder une famille à des couples qui ne pouvaient pas le faire en raison médicale, évidemment. Et donc, cette loi inclut l'adoption. Mais comme vous le savez, malgré ce qu'on a essayé de nous faire croire, l'adoption ne résout pas le problème dans le sens où il y a 800 enfants adoptés nationalement, en national et international, contre 20 000 couples qui ont un agrément en vue d'adoption. Donc, des couples homosexuels ne pourront pas adopter. Puis en plus, on connaît les complications de certains pays à vouloir le faire. Donc, est-ce que, au nom même de cette égalité, sur quoi était fondée la loi Taubira, l'ouverture à la PMA, l'extension à la PMA pour tous, puis ensuite la GPA, est malheureusement inéluctable.
Alors ça tombe très bien que vous me posiez la question du soi-disant nom de l'égalité. Alors je vais expliquer ce qu'est une discrimination ou une égalité. Imaginons, je me méfie maintenant des comparaisons que je fais, alors c'est de la fiction, hein, je suis en train de faire de la fiction. Imaginons un examen scolaire, puisque c'est mon truc, c'est de la fiction, hein, je ne suis pas en train de comparer. Je vais le répéter 10 fois, un examen scolaire qui n'est ouvert qu'aux femmes. Ce serait absurde, mais c'est comme ça, et c'est la règle du jeu. Si une femme se présente et qu'elle n'est pas admise, là, il y a discrimination, je ne sais pas, à cause de son faciès, de sa taille, que sais-je. D'accord ? Si un homme se présente à cet examen, il n'y a pas discrimination, il n'y a pas inégalité. Alors, on peut me dire, oui, mais c'était stupide, l'inégalité, c'est qu'il aurait fallu que ce soit ouvert aux deux. C'est autre chose. Eh bien, c'est exactement pareil pour notre loi. Notre loi, elle est ouverte aux couples hétérosexuels. Point. Donc, il n'y a absolument pas inégalité ni discrimination lorsqu'elle n'est pas ouverte aux couples hétérosexuels et aux femmes seules. Donc, tous ceux qui parlent à chaque fois que j'entends mes collègues, j'en suis désolée, dire qu'il y a rupture d'égalité, que c'est une discrimination, à chaque fois que j'entends ça, c'est un mensonge. En tout cas, au niveau du droit, d'ailleurs le Conseil d'État le dit, les situations différentes appellent des décisions différentes. Je continue à le citer, il n'y a pas de statu quo. Le droit ne contraint pas, ni au statu quo, ni à l'évolution. Ça n'est pas le droit qui empêche ces dames d'avoir un enfant, j'allais dire, c'est la biologie. Et alors, on pourrait dire, ce que je viens de vous expliquer concernant l'examen fictif, hein, scolaire, hein, c'était de la fiction. On pourrait dire, oui, mais ce qui n'était pas normal, ce que vous dites à propos de la loi Taubira, c'est que ce ne soit pas ouvert à toutes les familles. Là, on est d'accord. Sauf que non, c'est normal, puisque la médecine a vocation à soigner une pathologie. C'est dans le serment d'Hippocrate. Il n'y a pas de médecine militante, il n'y a qu'une médecine médicale. Donc là encore, il n'y a pas d'inégalité. Le problème, ce qui m'exaspère un petit peu, je vous avoue, c'est qu'à chaque fois qu'on parle d'inégalité, de discrimination, c'est de la fake news, c'est du mensonge. Et moi, pour moi, c'est de la manipulation d'opinion, ça. À chaque fois qu'on entend ça, c'est de la manipulation d'opinion, c'est de l'influence. Parce que les gens se disent quoi ? Ils se disent, ah ben oui, c'est pas juste, c'est de la discrimination, c'est de l'inégalité, il faut le faire. Or, c'est faux, c'est faux. Alors, ce qui serait plus honnête, ce serait de dire, nous allons faire quelque chose que la biologie ne permet pas, nous allons créer un droit pour ça et l'inscrire dans la loi. Là, enfin, j'aurai quelque chose d'honnête. Et mesurez, s'il vous plaît, ma phrase, je la répète, nous allons faire quelque chose que la biologie ne permet pas. Là, nous sommes en train d'entrer dans quelque chose
alors,
de grave.
Alors, si vous le voulez bien, donc vous ne vouliez pas revenir sur ce précédent tweet, mais il y a quand même eu d'autres propos qui ont suscité, il y en a beaucoup avec vous, hein, donc il faut quand même être honnête, qui ont suscité des polémiques, notamment dans un entretien vidéo à Ouest Hebdo, c'était en janvier, là, 2019. Vous aviez donc dit, je vous cite, « Un enfant n'est pas un médicament, c'est un être humain », et rajouté donc en parlant des femmes en demande de PMA, « J'entends bien qu'elles souffrent, mais alors qu'est-ce qu'on fait si un drogué souffre? On lui donne de la drogue. Est-ce que je lui donne un médicament? Est-ce que je lui donne un enfant parce qu'elle souffre ?» Que vous puissiez avoir des doutes ou certaines réserves, ça on peut tout à fait l'entendre, mais est-ce qu'en employant de tels propos, vous n'avez pas quand même conscience que vous pouvez quand même choquer ?
Alors je n'ai pas vocation à blesser, ça c'est clair que je n'ai pas envie de blesser. En attendant, honnêtement, tous mes propos sont détournés, on retire un, deux ou trois mots, on les met ensemble et ça fait les gros titres. Là, sur ce sujet-là, il faut bien reconnaître que si je disais que le ciel était bleu, ça n'irait tout de même pas. Donc, en l'occurrence, les propos que vous avez cités, si on les reprend exactement dans leur contexte, il s'agissait de comparaisons et de métaphores. Alors, si on ne peut plus raisonner par métaphore ou par l'absurde, ça va devenir compliqué de raisonner. Et effectivement, il n'y a quand même rien, ni d'homophobe, ni de ce qu'on veut m'attribuer dans tous les propos. D'ailleurs, s'il y en avait, je serais déjà condamnée, j'espère. Donc, il n'y en a pas, tout simplement, il n'y en a pas.
Agnès Thil, vous restez avec nous, vous êtes notre invitée jusqu'à 14h ce dimanche et on a beaucoup de questions à vous poser pour parler bien sûr de l'actualité et puis de ce sujet notamment de la PMA. A tout de suite dans les Incorrectibles sur Sud Radio.
L'Incorrect, le mensuel qui ne lâche rien, présente
Sud Radio, les Incorrectibles. Éric Morillo.
De retour dans les Incorrectibles sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 14h, toujours accompagnés de mes acolytes Paul Lobacher du Nouvel Obs, enfin de l'Obs, pardon, faut dire maintenant, et puis Arthur de Vatrigan de l'Incorrect, avec notre invité cette semaine, c'est Agnès Thil, députée La République En Marche, qui n'a, on peut le dire, pas la langue dans sa poche. Alors juste avant de s'interrompre, on parlait de la PMA, à laquelle vous êtes opposé pour toutes, hein, faut préciser, oui, et compléter bien entendu. C'était Paul qui voulait vous poser une question à ce sujet.
En fait, j'ai une question extrêmement politique, c'est que maintenant on connaît le projet d'Emmanuel Macron. On sait que la PMA pour toutes va arriver à l'Assemblée, en tout cas sous une version ou une autre à la suite des débats sur la bioéthique. Est-ce que vous vous inscrivez encore dans le projet sociétal d'Emmanuel Macron, dans la vision de société d'Emmanuel Macron et de La République En Marche? Je vous entends et je sens énormément de dissonance finalement.
Alors, ce qui est sûr, c'est que dans les valeurs d'En Marche, je les partage complètement. En l'occurrence, le sujet sociétal, il y avait la liberté de vote. Ce qui prouve bien, si on laisse une liberté de vote, qu'il peut y avoir des avis différents. Comment peut-on laisser une liberté de vote à un député sans le laisser expliquer les raisons de son vote, dès lors que ça ne va pas dans le sens du groupe ? Je me reconnais sur tout le reste. D'ailleurs, j'ai toujours voté en accord avec mon groupe, pas par discipline, parce que je suis suffisamment libre pour ne pas le faire s'il y avait à le faire. Mais en l'occurrence, là, non, effectivement. Pour moi, on doit légiférer pour un corps social. C'est pas mon rôle d'inscrire dans la loi la condition pour qu'un enfant naisse sans père. Ça pose le problème de la sécurité sociale, du remboursement. Il faut savoir que cette ouverture à la PMA pour toutes, tout de même, ça veut dire la congélation vocitaire. Ça veut dire remettre en cause tout le droit de la filiation.
La sécu est déjà dans le rouge et qu'on dépense déjà un énorme budget pour aider les familles, c'est ça? Vous précisez ça par rapport à la sécurité sociale?
Mais très clairement, dans le projet, ce sera remboursé par la sécurité sociale. Une opération au laser des yeux, c'est 2000 euros non remboursés par la sécurité sociale. Les dents, c'est souvent pas remboursé par la sécurité sociale. On a du mal, Agnès Buzyn, notre ministre, le disait cette semaine dans l'hémicycle, sur la dépendance, sur les personnes âgées.
Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut comparer? Est-ce que vous pensez qu'une jeune femme de 20 ans au RSA aurait envie de faire des démarches pour avoir un enfant par PMA, qui en aurait tant que ça?
Et pourquoi pas, à partir du moment où c'est un droit? Pour le coup, on parlait de la discrimination tout à l'heure. Pour le coup, à partir du moment où c'est un droit, si elle le demande, là, il y aurait discrimination. Si on ne lui donne pas, il y aurait discrimination en fonction de son revenu. Et donc, il va falloir créer une aide pour les
vous
femmes
seules. Vous
avez
rencontré des femmes qui ont eu recours à la PMA? Vous avez discuté
avec
elles?
Oui, bien sûr. Et puis surtout, j'ai élevé aussi ma fille seule, donc je sais à quel point on ne s'en sort pas. Hein. Moi, je donnais des cours particuliers pour gagner 17 euros de plus par semaine avant d'être élue. Donc je sais à quel point une femme seule ne s'en sort pas. Marlène Schiappa le dit, le président le dit, elles sont sur les ronds-points. Une femme seule ne s'en sort pas financièrement. Donc ça pose un souci.
Vous avez étudié les pays voisins? Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? Est-ce que, je ne sais pas, par exemple en Belgique ou en Espagne, est-ce qu'on peut affirmer qu'il y a une explosion des demandes de femmes seules de surcroît sans revenus?
Alors, étudier, non, sachant quand même que la Belgique n'a pas légiféré là-dessus. Hein. Les autres pays le font. Mais j'allais dire, c'est pas parce que les autres pays le font, moi, ça me pose des problèmes éthiques. C'est uniquement la validation officielle d'un désir personnel. Est-ce que c'est le rôle de la médecine? Et surtout, est-ce que c'est mon rôle de législateur de créer les conditions pour qu'un enfant naisse dans une famille monoparentale et sans père?
C'est votre expérience, justement, vous le disiez, de mère d'enfant et seule pour l'élever qui vous fait réagir si vivement?
Non, mais au moins, je sais que financièrement, c'est compliqué. Tout le monde, je suis ravie de voir que Marlène Schiappa le dit, que notre président de la République le dit. Et donc, c'est un peu antinomique avec le fait de créer des femmes seules et de créer des conditions pour que des femmes enfantent seules. Alors, elles disent que c'est un projet et qu'elles ont, elles ont fait des réserves financières. Mais à partir du moment où c'est un droit, tout le monde peut réclamer l'accès à ce droit. Absolument tout le monde. Et il n'est pas question de faire une discrimination financière. Donc, c'est compliqué. Et est-ce qu'on va créer une aide ? D'ailleurs, lors de la loi Pacte, on en parlait déjà, une aide pour aider ces femmes. Et qui va la payer? Je doute que ce soit l'ISF ou les moins. Si c'est encore les familles moyennes, bah dans ma circonscription, en l'occurrence dans le nord de la France, ça ne va pas aider à diminuer mon vote extrême.
Est-ce que vous avez... vous dites qu'il y a un débat à l'intérieur de votre parti, donc du gouvernement. Il y a un vrai débat. Est-ce que vous abordez toutes les questions, et notamment une qui est sur une des conséquences de la loi, qui est le lien entre PMA et don du sperme, qui rejoint de la conséquence économique, et notamment la sécurité sociale, parce qu'aujourd'hui, on a moins de 300 donneurs en France, on a environ 4% de couples infertiles, donc pas suffisamment de donneurs. Si on ouvre cette extension de la PMA à tout le monde, on va devoir forcément aller chercher des donneurs ailleurs, comme ce qui se passe en Belgique, où ils importent, moyennant finance, des dons du Danemark. Et donc, il y aura forcément un marché, quoi, un marché de cette procréation. Est-ce que ces sujets-là sont abordés? Est-ce qu'il y a des études dessus au sein de votre parti? Ou c'est vraiment un débat purement idéologique et on n'en parle pas?
Ces sujets-là sont abordés. En ce moment, le lundi, nous avons des conférences. Là. La dernière, justement, on en a parlé, puisqu'on manque de gamètes. D'ailleurs, au passage, l'homme est réduit à ses gamètes. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me dépasse quand même. Excusez-moi, mais l'homme, c'est largement autre chose et plus que ses gamètes. La femme aussi, elle est réduite à son orientation sexuelle et à son régime matrimonial. Donc, vous me disiez, effectivement, il y aura un choix. Moi, je crains la marchandisation. J'ai posé la question, justement, en disant que tous les pays qui avaient eu accès à la PMA avaient eu recours à l'achat de gamètes. On m'a répondu que non. Donc, ils ont des chiffres que je n'ai pas.
Mais ils montent.
Mais effectivement, ça pose un problème. Déjà, le gros problème, c'est que l'homme soit réduit à ses gamètes, clairement. Et puis quelle priorité? Le second problème, c'est la sélection, clairement. Aujourd'hui, on sélectionne. Jacques Testard, qui est quand même le père des deux premiers bébés éprouvettes. Nous, quand on l'a étudié, quand on l'a écouté, auditionné, je me disais, bon, ben, il va être pour. Pas du tout. Il nous brandit la pancarte, principe de précaution, sélection, eugénisme. Évidemment qu'il y a sélection. Si vous tapez tout de suite banque de sperme sur Google, vous choisissez la taille, les yeux, le QI. Évidemment qu'il y a sélection. Évidemment que c'est un problème.
Oui, alors à vous entendre, je rejoins la question de Paul, ce qui est assez amusante, c'est que par votre histoire, vous venez plutôt de la gauche. On vous entend, vous tenez des lignes conservatrices. Qu'est-ce que vous foutez en marche?
Bah surtout après, attendez, moi j'aimerais juste avant, alors c'est très bien, vous me faites rebondir avant d'avoir une réponse là-dessus. Je vais vous citer cette fois pas un tweet de vous, mais un tweet de Guillaume Chiche, qui est député justement des Deux-Sèvres, de La République En Marche, qui lui a tweeté en janvier: je condamne fermement les propos homophobes et islamophobes d'Agnès Thil. Ces dérapages à répétition sont inacceptables. Elle est libre de ses expressions, qu'elle cesse de salir notre groupe en allant les répandre ailleurs. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous accusent d'homophobie? En effet, comme les Arthur, qu'est-ce que vous faites encore dans ce pays?
Alors c'est très clair, hein, je suis ni homophobe, ni tout ce que vous voulez, phobe. Alors l'homophobie, c'est une aversion.
Alors comment ça se fait que les gens soient aussi braqués là-dessus?
Eh bien, j'aimerais bien qu'ils me donnent des arguments. Or, personne ne m'oppose aucun argument, à part m'insulter et me crier et s'indigner aux phobies. Alors, clairement, l'homophobie, c'est une aversion vers les personnes homosexuelles. Que ce soit dit, je n'ai aucune aversion pour les personnes homosexuelles. La preuve en est, d'abord, vous l'avez dit, j'étais pour le mariage pour tous.
Ouais, je suis pour l'avortement. Mais vous ne souhaitez pas que les familles parentales donc, adoptent...
je veux bien qu'elles adoptent.
Si elles peuvent avoir des enfants à moins d'adopter, or vous savez que c'est très difficile pour des couples homosexuels.
Voilà, alors il faudrait peut-être développer l'adoption, faire quelque chose pour qu'on adopte mieux, mais je suis tout à fait favorable à ça. Mais en revanche... S'il s'agissait...
Donc c'est une contre-vérité, puisque vous dites vous êtes pour l'adoption par les couples homosexuels. Or, on sait que c'est très difficile pour les couples homo. Donc il n'y a pas de solution.
Oui, il faudrait peut-être développer l'adoption. Par contre, ce que je tiens à dire, c'est que s'il s'agissait de femmes hétérosexuelles, d'ailleurs pour les femmes seules, elles sont hétérosexuelles, mes objections sont exactement les mêmes. Donc il n'y a aucun rapport avec l'orientation sexuelle. Absolument aucun. Et alors, trouvez-moi...
Dans la PMA aujourd'hui, si je ne me trompe pas, il y a quatre conditions pour avoir la PMA. Aujourd'hui, c'est un, la première, c'est être en couple avec un homme. La deuxième, c'est être que là, au moins l'un des deux soit stérile. La troisième, c'est ne pas être marié avec une autre personne. Et que la quatrième, c'est évidemment que les deux couples soient pour la PMA. Donc, je veux dire, une personne célibataire, officiellement, ne peut pas accéder à la PMA aujourd'hui.
Non.
Donc, la question ne se pose pas.
Non, mais justement, si on étendait cette loi, ce serait pour les femmes seules, célibataires, et pour les femmes en couple.
Alors, cette émission s'appelle, vous l'avez remarqué, Les Incorrectibles. On donne la parole, on essaye de le faire au plus grand nombre, qu'on soit ou pas d'accord avec ces personnes. Vous avez donc publié, c'était le 1er mars dernier, un communiqué de presse, où là, on va vous reconnaître cela. Vous dénoncez une forme de harcèlement à votre encontre, notamment sur les réseaux sociaux et via la presse également. Vous écrivez, là je vous cite encore, « Ainsi, et c'est le plus grave, il semble que ce sujet, la PMA pour toutes, soit un sujet absurdement tabou. On est donc plus en démocratie, selon vous ?»
Alors, c'est ce que j'ai dit à cette époque. Et alors, il faut forcer de constater que ça a apporté ses fruits parce que depuis, je suis beaucoup moins ennuyée. Et c'est clair, j'ai dit que je déposerais plainte maintenant dès le premier qui me traite de tous les noms. En l'occurrence, d'homophobe et de je ne sais quoi, ça va bien. Il n'y a pas d'homophobie. Je veux qu'on cesse de me faire passer pour n'importe quoi sur les ondes. Or, mes collègues l'ont fait. Et les autres, il y a clairement les réseaux sociaux qui... ces anonymats et ces pseudo-comptes qui harcèlent, qui en profitent. Et voilà.
Paul,
pourquoi il y a un grand débat en ce moment sur Twitter, Facebook, sur l'anonymat. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'anonymat sur Internet ?
Ah, moi, je serais contente de lever l'anonymat.
Vous savez parce que c'est dangereux quand même de lever l'anonymat. C'est-à-dire qu'il y a des gens en Syrie, en Russie ou dans des pays compliqués, en Chine, dans les dictatures, qui ne pourront plus jamais s'exprimer sur Internet, donc qui ne pourront plus jamais s'exprimer si jamais on lève l'anonymat.
Mais ça a toujours un effet négatif et un effet positif. En l'occurrence, là, tous ces gens qui ont les mains propres parce qu'ils n'ont pas de mains, ça commence à bien faire.
Il y a toujours eu en France des écrits sous pseudo.
Oui, oui, mais écoute...
Sous la monarchie, sous la République, sous l'Empire...
Et oui, et comme ça permet d'insulter, d'être absolument libre. Et ça pose un autre problème.
Tout comme les lettres personnes.
Eric parlait tout à l'heure de votre communiqué sur votre harcèlement sur les réseaux sociaux. Il y a quelques mois, une de nos concerts, Charlotte Dornelas, avait été prise à partie par un humoriste, quoi, avec toutes les précautions de visage. Humoriste et France Inter, ça va pas forcément ensemble. Daniel Morin, qui, dans une chronique, l'avait réduite à ses appâts sexuels avec toute la beaufrie et la violence que vous imaginez. Marlène Schiappa, si prompte à dégainer un tweet en communiqué, n'a pas réagi par rapport à votre communiqué, n'a pas réagi lorsque Charlotte Dornelas s'est fait attaquer. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le fait d'être catholique et de défendre certains sujets sur une ligne et de conservation, ça autorise à certains opposants des méthodes qu'ils n'oseraient pas forcément pratiquer sur d'autres.
J'ai dénoncé ce deux poids deux mesures et effectivement il y a un deux poids deux mesures qui ne me convient pas. En l'occurrence, ce que vous venez de dire, effectivement il n'y a pas de raison que d'autres puissent faire des choses et moi je ne peux pas. D'autres pourraient parler et moi je ne pourrais pas. Il n'y a aucune raison.
Vous pensez parce que vous êtes catholique ? Que ça arrive.
Ah, je ne sais pas si c'est un rapport avec la religion. Ce qui est sûr, c'est que ça a un rapport avec le fait que je ne vais pas dans la ligne d'une majorité.
Agnès Thil, justement, on va en parler de la religion. Dans un petit instant, à s'interrompre un instant, justement, on se retrouve dans même pas une minute sur Sud Radio, dans Les Incorrectibles avec vous, Agnès Thil.
L'Incorrect, le mensuel qui ne lâche rien, présente.
Sud Radio, Les Incorrectibles. Éric Morillo.
De retour dans Les Incorrectibles ce dimanche avec notre invitée, une députée. C'est assez rare pour être marqué, en tout cas ici, puisqu'on n'avait pas reçu beaucoup d'invités féminines. Donc Agnès Thil, vous êtes députée La République En Marche. Et puis vous avez, donc on le disait, un propos bien, bien affirmé. Alors justement, avant de s'interrompre avec Paul, on parlait de religion. Alors l'actualité a été assez fournie cette semaine dans la matière, puisque donc d'abord on va rappeler que vous êtes catholique pratiquante, vous ne vous en cachez pas. On a donc envie de vous questionner un peu là-dessus, en vous demandant notamment des réactions face à, d'abord, tous ces scandales de prêtres pédophiles qui ne cessent d'éclater de toutes parts. Quel est votre regard à ce sujet ?
Oh là là, D'accord. D'abord, vous venez de dire « je ne m'en cache pas ». C'est sûr que je ne m'en cache pas, mais je ne le montre pas non plus en CV. Et en l'occurrence, ça fait des années que je suis directrice d'école et tout le monde l'ignorait. Voilà, c'est parce qu'en étant dans la vie publique, les gens tapent Agnès Thil sur Google et ils ont vu que j'avais écrit un livre. Mais vous voyez, je ne porte rien, je ne le dis pas. Bon, voilà, c'est pas ce que je montre en première chose. Donc après, quand on me pose la question, oui, j'ai aucune...
Alors, sur ce sujet, justement, alors, du scandale de la pédophilie parmi les prêtres.
Donc, écoutez, je suis ça très loin... Évidemment que je condamne forcément, je ne vois pas qui pourrait ne pas condamner.
Que vous pensez par exemple de la décision du pape François d'avoir refusé la démission du cardinal Barbarin, condamné pour non-dénonciation d'abus sexuels? Il invoque la présomption d'innocence alors que les faits ont été pourtant reconnus en première instance.
Alors, ça fait beaucoup de questions d'un coup. La première, là, vous dites, il évoque la présomption d'innocence, mais je crois que ses avocats ont fait appel.
Oui,
donc, du coup, s'ils ont fait appel, c'est que les compteurs sont remis à zéro et que la présomption d'innocence est à nouveau là.
Je voulais avoir votre réaction là-dessus.
Mais par contre, je pense que c'était une bonne idée d'accepter la démission. Mais voilà, moi, je suis très loin de tout ça. Et par contre, il s'est mis en retrait. Eh bien, si c'est un peu pareil, s'il ne... plus aucun lien dans la gestion du diocèse, ben parfait.
Vous pensez pas que l'Église a un tournant de son histoire ?
Sûrement. Je pense que en ce moment, ils sont en carême. Je pense que 40 jours, ça suffira pas. On va dire 40 ans.
Ça... Bon, en tout cas, là-dessus, donc, les propos, donc, enfin, en tout cas, la réaction du pape, évidemment, vous le disiez, présomption d'innocence, puisqu'il y a eu appel, mais enfin, bon, ça peut avoir choqué quand même pas mal de monde. Je ne sais pas si vous avez suivi les propos de l'abbé de la Morandais cette semaine, c'était sur LCI. Ouais, bah justement, il parlait de la pédophilie, alors lui aussi, il a, pour le moins, on peut le dire, choqué. Écoutez ce qu'il disait, on fait réagir juste après.
On a toujours l'impression que c'est un viol, c'est de la violence. Au départ, je ne crois pas. Après les échos que j'ai eus, des confidences, un enfant cherche spontanément la tendresse d'un homme ou d'une femme. Enfin, rappelons que c'est 95% des cas, c'est la famille. C'est le grand-père, le père, l'oncle ou le frère. Les femmes, c'est extrêmement rare. Et souvent, ce sont des gamins en frustration de tendresse.
Voilà, alors là, on en tombe littéralement presque dans notre chaise quand même.
Quand on connaît la Morandais, non.
Ouais, enfin, voilà. Bon, alors, il est revenu, c'était lundi sur LCI. Depuis, le prêtre médiatique de 83 ans s'est excusé après ses propos. Évidemment, une réaction là-dessus?
Je crois qu'il faut laisser les vieux monsieur chez eux. Il est complètement tapé, excusez-moi, on a le droit de le dire, non? Enfin, ben, oui, je le dis quand même. Voilà, donc c'est tout. Mais les médias sont contents d'aller chercher des gens qui font le buzz. Voilà, il a dit fois tort.
Là, on n'a pas eu besoin d'aller chercher.
Fois tort. Hein. J'espère qu'il n'a pas de ministère et j'espère qu'il n'en a pas, tout simplement.
Au moins, c'est clair.
Est-ce que ça vous. Toutes ces histoires. Personnellement, dans votre foi catholique, est-ce que ça vous ébranle? Est-ce que ça vous interroge sur votre engagement politique aussi? Est-ce qu'il y a un lien, une filiation entre votre foi et votre engagement politique, votre position sur la PMA aussi? Est-ce que finalement, c'est une question très personnelle, hein. Est-ce que cette foi vous alimente quelque part
Non, alors là, il n'y a aucun lien entre les uns et les autres.
François Fillon, lui, il se présentait chrétien, gaulliste et français.
Non, il n'y a aucun lien entre les uns et les autres. Je suis profondément laïque, par exemple. Enfin, il n'y a aucun lien sur ma vie politique, il n'y a aucun lien sur ma foi. Enfin, la foi, c'est complètement autre chose. En fait, ce ne sont que des hommes, quoi. Enfin, je suis même surpris qu'on s'étonne. Enfin,
c'est une question parce que d'autres personnalités politiques, parfois, parlent de leur foi et expliquent des cheminements.
Il n'y a aucun rapport avec... Il n'y a aucun rapport, non, avec ma foi. Je condamne, évidemment, qu'on condamne fermement.
Votre position sur la PMA, étonnée. Par exemple, elle n'est pas influencée par l'Église catholique?
Et non, et je n'ai pas voulu lire du tout ce qu'ont écrit les évêques. Je crois savoir qu'ils ont écrit quelque chose il y a déjà plusieurs mois, 100% des évêques là-dessus. Je n'ai pas voulu lire du tout ce qu'ils ont écrit pour ne pas être influencée, pour ne pas qu'on me dise « vous dites comme eux ». Non. Par exemple... j'ai des collègues qui me disent « mais t'idéalises le père ». Alors bon, pourquoi pas, hein, mais on idéalise peut-être la mère. Ce qui est sûr, c'est qu'aucun amour n'est remplaçable. On me dit « il y a deux mères ». Et alors, il peut bien en avoir 3, 4 ou 5, vous pouvez avoir 50 épouses. L'une ne remplace pas l'autre, vous vivrez 50 histoires différentes. Tous les gens qui ont perdu un proche, allez dire, à une mère ou à un père qui perd un enfant, bah t'en as d'autres, ça remplace rien, aucun amour se remplace. Donc, je ne sais pas, enfin, il n'y a pas d'idéalisme. Je ne sais pas si j'idéalise les uns ou les autres, mais rien ne remplace l'autre. On est en train de faire cette loi va faire venir un enfant sans père. Et de quel droit est-ce mon rôle à moi, est-ce notre rôle de législateur de faire ça? On me dit, ils grandissent. Évidemment, ils grandissent. C'est l'essence même de la vie, de s'adapter. La continuité de la vie montre les adaptations qui garantissent la vie.
Moi, je voudrais revenir sur les affaires de pédophilie, mais en lien avec le rôle de l'élu. Parce que récemment, une mission d'information parlementaire sur les infractions sexuelles sur les mineurs s'est interrogée sur le bien fondé du secret de la confession et donc a auditionné plusieurs évêques à ce sujet. Peut-être rappeler rapidement aux auditeurs, en gros pour l'Église, le secret de la confession revêt un caractère absolu, aucun prêtre ne peut y déroger sous prétexte d'être excommunié, c'est le droit canon, et pour l'État, il est régi par le secret professionnel comme les avocats et les médecins. Quel est votre avis là-dessus, est-ce qu'il faut briser ce secret?
Honnêtement, je ne me suis pas penchée. Puis j'avoue que j'évite d'aller sur les sujets religieux. Mais bon,
là, c'est pas religieux, ça pourrait être...
Il y a deux institutions, la République et la religion, avec deux droits différents, le droit canon et le droit de la République.
Là, je parle du droit de la République. Hein.
Oui.
Enfin,
oui.
Vous n'en reconnaissez qu'un dans notre pays.
Oui.
Rassurez-nous.
Bien sûr, oui. Le droit de la République, et ils doivent s'adapter aux règles, heureusement, de la République. Et tout le monde doit s'y adapter aux règles de la République. Et je dis bien tout le monde. Voilà, il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures pour les uns, pour les autres. La question, c'est si on doit lever le secret.
C'est une question qui est posée en ce moment. Le secret professionnel, non, c'est
ça signifie qu'il n'y a plus de secret nulle part, jamais. Mmh. Et alors un psy à qui quelqu'un dirait quelque chose de, je sais pas moi, qu'il a tué il y a 20 ans ou qu'il a subi je ne sais quoi il y a 20 ans, tout doit être dit. Alors il n'y a plus d'espace de confiance à qui on peut parler. Il n'y a plus d'espace. S'il n'y a plus d'espace comme ça, il n'y a plus de liberté. Il n'y a pas un espace où on est libre de dire quelque chose. Je ne sais pas, je ne me suis pas penchée sur ce problème, mais si c'est une société, ça veut dire que c'est une société sans liberté, où tout est su, et pourquoi pas filmer demain, à partir du moment où c'est su.
Ça veut dire que l'idée de transparence, même pour les élus, c'est quelque chose de compliqué pour la liberté. Est-ce que l'Élysée doit être totalement transparent?
À mon avis, on doit être transparent dans ces règles de la République. Mais là, c'est une autre affaire.
Il y a quand même beaucoup de flou, hein, notamment au sujet d'une certaine affaire qui bouscule l'Élysée depuis l'été.
L'affaire Benalla,
la cité. Qui a été mise en examen récemment et dont une révélation arrive toutes les semaines. Est-ce que il y a eu un manque de transparence de l'Élysée?
Je pense que tout ce qui concerne les Français... Et là,
quel est votre regard là-dessus,
Français,
d'ailleurs
il doit y avoir transparence. On ne doit pas mentir. Je vous disais tout à l'heure que je n'apprécie pas quand on dit qu'il y a inégalité et discrimination, parce que c'est du mensonge. On a été élus sur autre chose, pour faire de la politique autrement, pour ne pas mentir aux Français. On ne va pas s'en sortir si on continue à mentir. Moi, je suis contre le mensonge. Donc, à mon avis, là, il faut être transparent pour tout ça. Mais c'était une autre question, c'est est-ce qu'il y a un endroit où on peut dire quelque chose? C'est pour ça que je vous ai dit un psy.
Alors,
si ces endroits n'existent plus, ça, on va faire une société...
Totalitaire.
J'imagine, quand on va voir un psy, heureusement qu'ils sont là pour qu'on parle. Enfin, je ne suis pas en train de comparer l'un et l'autre, mais il faut bien des endroits où on peut parler en toute confiance et déverser son sac. Maintenant, vous avez raison, si c'est... Il y a d'autres. S'il s'agit de meurtre, est-ce qu'il faut le dénoncer? Voilà.
La loi, normalement, si je me trompe, l'y oblige.
Non, le seul cas de figure, justement, pour le secret professionnel, où quelqu'un peut enfreindre ce secret professionnel, mais c'est là. On est là dans le.
C'est l'intention.
Non, même pas. C'est pas l'intention, c'est uniquement sur l'atteinte sexuelle commise à l'endroit de mineur. Et là, on n'est pas sur l'obligation, mais on est sur la conscience. Est-ce que la personne qui reste dans ce cadre du secret professionnel peut l'enfreindre s'il le souhaite? Mais c'est pour ça que je pose cette question, parce que c'est vraiment le seul cas, c'est sur l'infraction sur mineur. C'est pour ça.
Mais imaginons que ce soit plus grave.
Les attentats terroristes, par exemple. Un docteur un djihadiste qui dit qu'il va annoncer faire un attentat, vous posez la question.
S'il y avait des choses bien plus graves, c'est vrai que les questions se posent sincèrement.
Alors, d'ailleurs, là aussi, on vous a, excusez-moi de profiter de la transition.
Je réfléchis en même temps, excusez-moi.
Non, mais on vous a aussi... vous avez, donc je le précise, c'était à la fin du mois de janvier, adressé une lettre de 9 pages à vos collègues alors du groupe majoritaire donc sur la révision de la loi bioéthique, mais dans laquelle vous écriviez, alors c'est pas pour reparler de la PMA, je vous cite, « Le parent d'intention permet la multiplication des parents, le mot parent n'a plus alors aucun sens, il en découle politiquement que cette absence de sens de genre dans le mot parent favorise l'éclosion d'écoles coraniques et le départ de nos élèves vers celle-ci, en effet nos amis musulmans, etc. etc. » Suite à cette lettre, vous avez aussi été accusé d'islamophobie, de racisme.
Vous répondez quoi à ça, Agnès ?
Que, à nouveau, comme l'homophobie, je ne suis ni homophobe, ni raciste, ni xénophobe. Et ce qui fait beaucoup, c'est qu'il
m'est... Ça ne vous remet pas en question, quand même, de vous dire qu'à chacun de vos tweets, vous êtes comprise, pas comme vous le souhaitez ?
Ça ne me remet pas en question. Ça veut vraiment dire qu'on a du mal à parler sur ce sujet. Et que si on peut me dire quelque chose...
Pour les autres, qui ont du mal
à comprendre. Et si on peut tout de suite m'attraper pour me faire taire, ce serait une bonne idée. Et voilà.
On sait que c'est des sujets tabous et qu'en fait, que c'est notre ami Mathieu Bocoté qui disait ça, c'est dès qu'on n'a pas d'argument et qu'on fait taire dans le politiquement correct, on accuse quelqu'un de phobe. Donc on met ce qu'on veut derrière. Vous pensez qu'il y a des sujets tabous sur lesquels on ne peut pas parler, on n'a pas le droit de parler. Là, vous avez cité donc le sujet de bioéthique, la PMA, là, de l'islam, ces deux sujets qui sont, on n'a pas le droit de parler, pas le droit de donner son avis.
En tout cas, c'est clairement ce qui m'est arrivé. Tout de suite, on m'a traité d'islamophobe, alors que quand on lit ce qui est écrit et si on demande des explications, peut-être que je me suis mal exprimée, mais j'ai mon collègue d'ailleurs qui est député de Sarcelles, vous voyez, qui m'a dit en commission, il m'a dit « T'as raison pour les écoles coraniques, t'as raison, mais tu t'es mal exprimée ». J'ai dit « Je sais que j'ai raison ». Allez, bon. Donc, ceux qui ne sont pas venus chercher l'explication, immédiatement, les gros titres ont pris les trois mots, sortis de leur contexte et ont fait les gros titres. À l'époque, je parlais, et c'est écrit dessus, de ce que je vivais dans l'école, j'étais en REP+. Moi, je ne veux pas diviser, je ne veux pas déchirer la société plus qu'elle l'est, et il y a des notions comme celle-ci, de parent 1, parent 2.
Vous connaissez la force des mots, vous êtes enseignante, vous
voilà.
Le dites vous-même.
Oui. Eh bien, cette force des mots, exactement, m'a fait quitter trois élèves dans mon école. Et cette année-là, en 2013-2014, il y avait les journées de retrait. Et il y en a eu trois, à mon souvenir, il y en a eu trois. J'avais une école vide, comme un 30 juin, mais en plein milieu de l'année. Et voilà, et j'ai eu trois élèves qui sont définitivement partis. J'aurais dû écrire école privée, j'aurais dû écrire autre chose, mais j'avais pas de petit gâteau dans mon école. Il s'avère que, comme le dit notre président, les gens sont assignés à résidence, et j'avais essentiellement une majorité dans cette REP d'élèves musulmans. C'est ce qui m'a fait écrire ça. Et tout de même, c'est vrai que le mot parent 1, parent 2, pour certains de nos plus admirables compatriotes, ne sont pas admis. Je ne veux pas diviser la société. Et clairement, il y a des notions et des bouleversements sociétaux que les plus admirables de nos compatriotes peuvent ne pas comprendre.
Agnès Thil, députée de La République En Marche de l'Oise, est notre invitée jusqu'à 14h dans Les Incorrectibles sur Sud Radio. A tout de suite, on vient dans un instant.
L'Incorrect, le mensuel qui ne lâche rien, présente
Sud Radio, Les Incorrectibles. Éric Morillo.
De retour pour cette dernière partie de l'émission ce dimanche avec notre invitée, c'est Agnès Thil, députée de La République En Marche, avec laquelle on a parlé de beaucoup de sujets, notamment de PMA, de religion. Alors justement, dans la foulée de ce que vous disiez il y a un instant, Arthur de Vatrigan de l'Incorrect, on parlait évidemment de religion, vous accusez souvent d'être islamophobe suite à certains de vos tweets, bon, vous en êtes défendu il y a un instant. J'aimerais vous demander une réaction suite à l'attentat également islamophobe de Christchurch en Nouvelle-Zélande, qui a fait ressurgir une thèse dont on a parlé, qui s'appelle le grand remplacement, et que certaines personnalités évidemment évoquées. Qu'est-ce que vous en pensez de cette thèse-là ?
Alors, pour tout vous avouer, je ne connaissais pas l'existence de cette thèse avant cet attentat horrible. Il n'y a aucune raison, mais rien ne justifie de tuer un autre homme sur cette planète. Rien. En plus, voilà, je ne vais même pas dire en plus, c'était des hommes en prière, je crois. Les animaux ne prient pas. Il n'y a rien de plus humain que de prier. Il n'y a rien de plus inhumain, il n'y a pas de crime plus inhumain que de s'en prendre ou de s'attaquer à des hommes en prière. Mais enfin, s'ils n'étaient pas en prière, ce serait pareil.
Tout autant,
c'est clair,
bien évidemment. Ne comptez
pas sur moi pour justifier quoi que ce soit. Un homme vaut un homme sur cette planète.
Alors Agnès, si on est à quelques semaines maintenant d'un scrutin important, les élections européennes, quels sont les enjeux selon vous les plus importants pour l'Europe de demain ?
Il va falloir effectivement, je pensais penser à l'avenir, le climat, les relations avec la Chine, la stratégie industrielle. Plus globalement ou plus philosophiquement, j'allais dire, où historiquement, l'Europe est née d'un cauchemar. Et il y a comme une souveraineté du souvenir. Et on voudrait tirer une leçon, il y a une tentative de tirer une leçon de l'histoire. ce qui est bien, mais que ça ne suffit pas, clairement. Voilà. Aujourd'hui, on voit plutôt « ça ne suffira pas ». On voit des eurosceptiques, on ne dit même pas eurosceptiques, on dit europhobie. Et pourtant, l'Europe n'a pas failli. Donc il va falloir penser l'Europe avec l'attachement que chacun a à la diversité de ses peuples. Ce n'est pas lissé et en même temps, il faut vivre ensemble.
Arthur,
votre collègue Aurélien Taché déclarait en septembre dernier dans l'émission Les Terriens du Dimanche, le fait de transférer une grande partie de la souveraineté nationale au niveau européen, c'est le cœur de ce qu'on proposera aux élections européennes. Ça, c'est très clair, ajoute-t-il. Est-ce que vous partagez cette vision ?
Sûrement pas totalement. On n'est pas toujours d'accord avec Aurélien Taché, en réalité.
Mais là, il a l'air d'insister en disant que ce sera le cœur du programme.
Le plus
il parle au nom du
de
programme. C'est pour ça que je vous pose la question.
Clairement, le but, c'est de libérer tout de même, de protéger en même temps les pays, leur souveraineté, et puis d'aller vers le progrès. Il faudra toujours définir ce progrès, parce que qu'est-ce qu'un progrès ? C'est une émancipation sociale, un perfectionnement. Humain, est-ce que la PMA est un progrès ? Les questions se posent.
Oui, on y revient toujours.
Et sur les problèmes de souveraineté, vous ne pensez pas qu'il y a un souci de souveraineté aujourd'hui ? Parce que si on entend plutôt les eurosceptiques, c'est on a été dépossédé de souveraineté. Là, ceux qui sont plutôt europhiles, type Taché, dit on va encore plus donner de souveraineté à l'Europe. Vous, là-dessus, vous situez où ? On manque de souveraineté, oui, on n'en manque pas.
L'Europe est quand même un beau territoire, voire le plus grand, peut-être, mondial. On ne peut pas vivre les uns à côté des autres en ennemis. Ça, c'est clair. L'intérêt, c'est effectivement, on est né d'un cauchemar, il faut construire cette Europe ensemble. On ne pourra pas tous se lisser et vivre de la même façon, parce qu'on est tous attachés à la diversité de nos territoires.
Vous ne pensez pas que l'Europe est un tournant cette année, en 2019, avec Matteo Salvini en Italie,
l'arrivée au pouvoir, toutes ces personnalités.
Orban en Hongrie, avec le Brexit, qui n'est pas, il n'y a pas de pouvoir populiste en Grande-Bretagne, mais qui n'en finit pas. Est-ce que l'Europe aujourd'hui est un tournant ? Comment on fait pour que les citoyens reviennent à l'Europe ? Comment on fait pour face au populisme, comme le disait Emmanuel Macron ?
Oui, clairement, on a un tournant parce que l'Europe est née de ce cauchemar et en fait, on n'a fait que naître. Maintenant, c'est à construire. On a quand même fait en 18 mois, il y a eu des choses de fait. Hein. Il y a eu le glyphosate, il y a eu le droit voisin, il y a eu les travailleurs détachés, je ne pensais pas qu'on ferait plier la Pologne, et quand même, on a fait plier la Pologne. L'Europe de la défense, les universités européennes, tout ce qu'on peut faire ensemble, qu'on le fasse. Il y a du positif, du négatif, on ne peut pas avoir les deux, on le voit avec le Brexit. Ils voudraient maintenant, ils s'en mordent les doigts, ils voudraient bien revenir, mais prendre que le positif. Ça ne marche pas comme ça, la vie ensemble, on ne peut pas prendre que le positif.
Oh, t'as fait ça,
c'est
hein,
un peu enfantin de vouloir le beurre, l'argent du beurre et la crémière avec. Enfin, donc il faut accepter effectivement le mauvais côté, c'est la vie ensemble. Mais il y a des bons côtés. Moi, mes céréaliers, ils exportent, s'ils n'ont plus l'Europe, ils meurent, mes céréaliers dans ma circonscription. Donc, on ne peut pas cracher complètement sur l'Europe.
Et en France, le duel on s'achemine vers un duel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, d'une certaine manière, même si Marine Le Pen est dernière de la liste et Emmanuel Macron n'est pas sur la liste d'En Marche.
Bien sûr.
Est-ce que c'est inquiétant pour la démocratie française, ce duel entre l'extrême droite et Emmanuel Macron En Marche ? Est-ce que c'est bon pour la démocratie française ?
Je trouve que c'est inquiétant pour la démocratie. Je préférerais qu'on ait des oppositions. Je préférerais qu'on ait un PS fort ou des LR forts. Je préférerais voir Macron et LR ou Macron et PS plutôt que les extrêmes. Parce que du coup, le vote après représente un double rejet. Et on ne peut pas travailler ensemble avec des ennemis. On doit travailler ensemble avec différents points de vue. Mais après, c'est compliqué. Il n'y a pas d'automaticité d'un modèle démocratique. Alors, qu'est-ce qu'une démocratie ? Ensuite, il faut se poser la question.
Oui. Moi, justement, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit aujourd'hui, là, à l'instant, en disant je ne veux pas me retrouver avec Macron face aux extrêmes. Si on se rappelle du débat de l'entre-deux-tours en 2017, Emmanuel Macron avait déclaré que si Marine Le Pen arrivait au pouvoir, ça serait la guerre civile. On est 2 ans après son élection. On est la 19e semaine de Gilets jaunes. On a l'augmentation des violences. On a un Sénat. Qui saisit la justice pour 3 proches du président de la République, dont le directeur cabinet, le secrétaire général de l'Élysée. Est-ce que la France n'est-elle pas devenue ingouvernable, pour pas de pour les guerres civiles, sous la présidence d'Emmanuel Macron ?
ingouvernable, je ne pense pas. Nous sommes en pleine crise, ça c'est clair. Mais tout se passe comme si on le découvrait. Et ça, pour le coup, je suis étonnée parce que j'en suis de cette crise. On en sort, on est issu de cette crise. On ne serait pas là, je viens de nulle part. Et je vous le redis, Emmanuel Macron ne serait pas au pouvoir s'il n'y avait pas cette crise. On est les fruits de cette crise. Enfin, vraiment, on est les fruits de cette crise. Donc, les oppositions, on ne peut pas nous dire en même temps « Oh ben, vous avez créé ça, ça arrive, vous êtes surpris, vous ne savez pas gérer. » Non, ça n'arrive pas, on n'est pas surpris, on en est le fruit. Moi, je ne serais pas là. Cette majorité ne serait pas là s'il n'y avait pas eu cette crise. C'est depuis 30, 40 ans. Comment c'était du jamais vu, quelqu'un qui arrive comme ça au pouvoir, si vite, sans rien, la majorité qu'on a. On est le fruit de cette crise. On ne peut pas dire que c'est nous là qui l'avons créée. C'est
peut-être
qu'on
les avait un peu soufflé dessus.
Est-ce que les petites phrases d'Emmanuel Macron qu'on a souvent reprochées ne sont pas non plus, n'ont pas été un peu de l'huile sur le feu?
Oui, peut-être, il les a reconnues, comme j'en reconnais, comme je reconnais moi d'en avoir fait, comme tout le monde en fait. Et l'erreur, c'est de penser qu'il est parfait, ou d'imaginer ou de vouloir qu'il soit parfait.
Vous ne pensez pas qu'on a un devoir d'exemplarité lorsqu'on atteint de telles responsabilités, vous en tant que député ou Emmanuel Macron encore plus en tant que président de tous les Français?
Ah oui, quand j'ai été élu, je disais on est condamné à réussir parce que ça n'allait pas. Et presque j'allais dire on a intérêt à faire aucune ânerie. Mais c'est impossible, aucun humain ne fait aucune ânerie. Enfin, mais c'était ça, on était dans cet état-là. J'ai envie de dire que la seule petite bêtise peut-être qu'on a fait, c'est que moi je trouve qu'on était humble quand on a été élu. Moi j'ai été humble, j'ai été élu avec 54% contre du FN qui n'habitait pas là, qui débarquait. On était humble et on devrait continuer.
Pas trop intelligente, comme le disait l'un de vos.
On devrait continuer, on aurait dû continuer à aller. Voilà, l'erreur c'est que sûrement, comme on est 300, on se pense fort, alors qu'en réalité dans le pays.
Vous pensez toujours fort aujourd'hui?
On n'est pas.
On voit la crise des Gilets jaunes là, on en parlait. Vous ne pensez pas qu'il y a une véritable fracture?
Ah là, avec en France, le pays, si, clairement, la crise des Gilets jaunes nous dit bien ce qu'il en est. En même temps, on a répondu, on a essayé d'entendre, on a peut-être répondu trop tard, nul n'est parfait. En attendant, c'est rare, une nation qui prend du temps, qui se donne du temps pour dire ce qu'elle pense. Alors on peut dire que c'est de la campagne électorale, qu'ils parlent tout seuls. Mais tout de même, c'est du jamais vu et c'est rare.
Donc, c'est
à saluer. Pardon ?
Vous pensez que le grand débat, c'est un vrai débat ? Que les gens se sentent
écoutés ? C'est peut-être pas un vrai débat. C'est peut-être pas. On peut le critiquer, mais quand est-ce que ça a eu lieu ? Jamais. Mine de rien, et nulle part dans les pays étrangers non plus ça n'arrive. C'est rare une nation qui se donne du temps pour dire ce qu'elle pense.
De Gaulle a fait un référendum au moment où c'était chaud en disant je remets mon destin entre les mains du peuple français. Et là, il n'y a pas besoin de débat, il y a eu un vote.
Oui, donc vous voulez dire qu'il pourrait y avoir un vote que,
un référendum.
Vous voulez insinuer que ce serait bien qu'il y ait un vote.
Ça peut être une option. C'est plus dangereux pour Macron, je vous l'accorde.
En même temps, je pensais au RIC l'autre jour, je change de sujet, mais au RIC dans un village là près de chez moi de 250 habitants, ça voudrait dire, toute proportion gardée, que 5 habitants peuvent s'opposer au permis de construire. C'est juste, ça va pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne une démocratie. On peut pas. On est 65 millions de Français, ils sont combien dans la rue? Ça peut pas marcher comme ça. Il y a un vote, on va aux urnes.
Est-ce qu'il faut que les Gilets jaunes arrêtent de manifester?
Ah, complètement. Enfin, moi, là, il faut, en plus, vu l'allure que ça prend, je pense qu'il faut qu'ils arrêtent. Oui, il y a eu 10 milliards de lâchés. Il y a ce grand débat. On en pense ce qu'on en veut, mais c'est rare une nation qui se donne du temps. Je pense que c'est vraiment le symptôme de bien autre chose. Je pense que c'est le symptôme d'un pouvoir. Existentielle atteint. On n'est pas dans une crise économique parce que le débat sur le pouvoir d'achat ne crée pas un monde commun. Et sans monde commun, on n'aura pas de monde de paix.
Madame, je reviens juste sur ce que vous avez dit. Il y a eu 10 milliards de lâchés. Vous, avant d'être députée, vous racontez votre situation. Si vous étiez à votre situation encore aujourd'hui, sur les 10 milliards, vous n'auriez pas touché un euro. Et là, beaucoup de ces gilets jaunes étaient comme vous avant. Donc les 12 milliards, ça quoi les 10 milliards, ça dépend où ils tombent, mais je n'ai pas l'impression qu'ils tombent dans les poches de ceux qui sont dans la rue ou sur les ronds-points en tout cas.
Oui, et c'est ce que je vous disais, cette crise, elle est plus sociétale et à mon avis, elle signe plutôt une crise spirituelle qu'économique. Parce que les gens, j'espère que je ne vais pas encore la chose de travers, mais aujourd'hui, on est moins pauvre. C'est pourtant une vérité qu'il y a 50 ans, et on est moins heureux. Moi-même, quand j'étais jeune, je veux dire, il y avait une voiture dans la maison, il y avait un téléphone, on n'allait pas en vacances, on était beaucoup plus heureux. Le problème, c'est qu'on a construit une société serre de consommation, on est passé du sens du collectif à l'individualisme. Moi, j'ai un village chez moi, un grand village pour le coup. Et il y a quelques décennies, il y avait des cars qui allaient régulièrement à Beauvais. Aller savoir pourquoi, avec le temps, chacun a pris sa voiture. Voilà. Il n'y a plus de cars. Et maintenant, on est parce que l'individualisme, parce que mille choses. Et aujourd'hui, il faudrait retourner à ce sens du collectif. C'est très compliqué. On a fait croire que le bonheur était là-dedans. Dans la consommation, dans l'individualisme. C'est pour ça que cette crise est beaucoup plus profonde. Beaucoup plus profonde. Elle n'est pas économique, en vérité. C'est-à-dire, un débat sur le pouvoir d'achat, ça ne créera pas ce monde commun ni le bonheur des gens. Elle est beaucoup plus profonde.
Une crise spirituelle, c'est ce que vous dites, en tout cas, Agnès Thil. En tout cas, ce sera le mot de la fin. On laissera les auditeurs interpréter cela comme ils le souhaitent. Merci, Agnès Thil, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes députée La République En Marche de l'Oise. Merci à mes acolytes, Paul Lobachet de l'Obs et Arthur de Vatrigan de l'Incorrect, de m'avoir accompagné. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, sur Sud Radio. Très bonne semaine à tous.
Merci.
Dimanche, 13h-14h, Sud Radio, Les Incorrectibles.
Avec L'Incorrect, le mensuel qui ne lâche rien.